Si nous lisons la Bible, si nous en proclamons le message depuis plus de 2000 ans, c'est pour une raison très simple. Les vieilles histoires qu'on y raconte sont mes histoires. Adam et Ève dans leur jardin, c'est moi. C'est nous. Abraham qui se met en route vers une bénédiction complètement hypothétique, c'est moi, c'est nous. Israël libéré de l'esclavage, c'est encore moi, c'est nous. Qu'ai-je donc à faire d'un sourd-muet qui a vécu au 1er siècle dans la région de Saïda, au Liban? Bon, je ne suis ni sourd, quoique ça dépend un peu de ce qu'on me raconte, ni muet, plutôt bavard même, ni libanais, quoique. Pourtant, ce récit d'évangile qui est proposé ce matin aux églises chrétiennes, 2000 ans après sa réalité, c'est toi, ma sœur, c'est toi, mon frère, c'est moi. Alors je vous propose de découvrir ce matin en quoi cet homme sourd-muet est notre frère. La première chose, il y a un petit peu de Larsen, s'il vous plaît, s'il te plaît, Elliot. Il y a Larsen qui est là, qui tourne un petit peu. Merci. La première chose que Jésus réalise pour cet homme, vous le voyez dans le texte, c'est de le conduire à l'écart. Vous avez vu, l'homme a été conduit auprès de Jésus par un groupe d'amis, je suppose, quelques voisins compatissants, sans doute. Et il faut saluer cette entraide, ce soutien à l'handicapé. L'homme est pris en charge, il est pris en charge par la communauté. Et quelque part, la communauté, elle se construit elle-même autour de cette entraide sociale. On sert la bonne cause ensemble, on amène le sourd-muet voir Jésus. On s'occupe de lui, le pauvre, mais est-ce qu'on fait attention à lui? L'accueille-t-on comme personne en situation de handicap? Jésus, lui, ne voit que la personne, dans ce qu'elle a d'unique. Et je voudrais souligner cela. C'est peut-être ce qu'il y a de plus puissant, de plus réjouissant dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous connaît par notre nom. Il ne s'intéresse pas à l'humanité, aux 7,5 milliards de personnes qui peuplent cette planète. Ce que Dieu dit à Moïse, « Je te connais par ton nom », il le dit aux sourds-muets, il le dit à chacun d'entre nous ce matin. C'est le sens de cette conduite à l'écart. C'est la première étape de ce parcours de guérison. Entendre et puis parler, entendre et parler, c'est-à-dire devenir sujet de sa propre personne, c'est quelque chose qui relève en effet de la plus stricte intimité. Alors, notre protestantisme est très jaloux de la relation individuelle, personnelle, de chacun avec Dieu. Jésus le met en avant ici comme la priorité, des priorités. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Il est connu, il est appelé par son nom. Et la question, c'est, la première question, c'est, nous laisserons-nous conduire à l'écart ce matin pour nous ouvrir à une relation personnelle, unique, avec le Christ? C'est le premier geste. Le deuxième geste de Jésus, Il est assez déconcertant et assez inhabituel. Peut-être qu'on peut fermer. Déconcertant, inhabituel, oui, parce que d'habitude, la parole suffit pour opérer la guérison. Et ici, il y a tout un protocole thérapeutique. D'ailleurs, pas vraiment recommandable en ces temps de Covid. Hein. Jésus met les doigts dans les oreilles du sourd et puis il introduit sa salive sur sa langue. Alors, intrigué par ce protocole, je me suis mis à la recherche d'autres exemples où Dieu se sert de son doigt. Vous pensez à des trucs déjà, hein ? Jésus, oui, qui écrit par terre, sur la terre, dans l'épisode de la femme adultère, on ignore ce qu'il a écrit d'ailleurs. Par contre, dans le livre de l'Exode, Dieu se sert de son doigt, de ses doigts. Alors il y a la création, oui. Je vois qu'il y a des tas de choses qui remontent, hein, vous me faites des signes. Mais il y a aussi les deux tables de la loi qui sont remises à Moïse, écrites du doigt de Dieu. Dieu se sert de ses doigts quand il veut que sa parole soit entendue et reçue. Et le sourd-muet est touché par le doigt de Dieu. Et quand Dieu touche du doigt, c'est pour parler. C'est pour donner du sens à une existence. Seule la parole donne sens et vie, comme au jour de la création. Nous ne sommes pas forcément malentendants, hein, mais nous sommes tous atteints d'une forme de surdité intérieure qui handicape lourdement nos existences. Surdité à Dieu, surdité à ce que nous disent les autres, aux besoins qui se présentent à nous. Nos vies peuvent être des déserts de paroles reçues, de paroles entendues. Laissons donc Jésus toucher nos oreilles de son doigt pour qu'enfin sa parole puisse s'introduire dans nos vies. Il veut nous parler. Et si ce deuxième geste des doigts dans l'oreille restaure l'écoute, le troisième geste, lui, va restaurer la parole. Ce troisième geste nous montre Jésus crachant et touchant la langue de la personne muette avec sa salive. Ça paraît un peu dégoûtant, mais le sens est passionnant. Quand notre langue est sèche, qu'elle colle à notre palais, quand nous n'avons plus de mots pour nous adresser à Dieu, pour nous adresser aux autres, quand notre prière est vide de mots, vide d'esprit, Jésus vient toucher notre langue. Il dépose sa parole sur notre silence pour que naisse en nous une parole nouvelle, pleine de grâce et de vérité, parole d'amour et de sagesse, à même d'ensemencer nos vies de foi et d'espérance, comme ça a été proclamé ce matin par Léa. Un peu comme les disciples qui, dans un autre évangile, veulent apprendre à prier, qui demandent à Jésus de mettre des mots sur leur langue. Jésus dépose en eux le mot « Notre Père » et leur prière s'éveille soudain. Elle prend vie et sens et elle s'élève vers Dieu. En vérité. Le quatrième geste de Jésus est très beau et me remplit de courage. il lève son regard vers le ciel et soupire. On nous a appris depuis tout petit dans les bonnes églises évangéliques protestantes qu'il faut prier les mains jointes et les yeux fermés. On ne nous dit jamais ça, mais on le fait tous. Je ne sais pas tellement d'où ça vient. Jésus les gardait ouverts sur le ciel. Cette levée des yeux vers le ciel, c'est l'essence même de la prière. Elle reconnaît, cette levée du regard, elle reconnaît que Dieu est au-dessus de nous. Que sa présence nous échappe, pour le dire autrement. Qu'elle nous dépasse, mais qu'en même temps, il est proche, il écoute, il parle, il aime. Ça, c'est le soupir qui le dit. Ce soupir qui dit en silence que la vraie prière n'est pas nécessairement une prière pleine de mots, pleine de « Seigneur, Seigneur ». Comme la prière de Jésus sur la croix qui soupire, qui rend le souffle en disant « Père », à nouveau ce mot, « Père, je remets mon souffle, mon esprit entre tes mains ». Ce quatrième geste nous enseigne quelque chose de fondamental sur la prière. Nous sommes invités à lâcher prise dans la prière. Lever les yeux et soupirer. C'est peut-être l'expression de la prière fondamentale. Dans ce soupir du Christ, c'est toute la compassion de Dieu qui s'abat sur nous, qui nous rejoint. Il n'est pas seulement tout là-haut, dans le ciel. Il soupire auprès de nous en Christ. Il est présent auprès des sans-voix, des malentendants de toutes sortes que nous sommes, des maltraités, des humiliés, des oubliés. Il est auprès de chacun de nous. Il est Dieu avec nous. Jusque dans les moments de grande solitude et de souffrance, et peut-être vous en traversez ces jours-ci. Par ces quatre gestes, Jésus vient d'ouvrir nos oreilles et nos lèvres. Mais il ne s'en tient pas là. Il pose un cinquième et dernier geste thérapeutique, fondamental. Ce n'est plus un geste d'ailleurs, cette fois c'est une parole. Il dit « Ephphatha », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Jésus parle pour la première fois dans cette rencontre. Jusque-là, il a agi en silence. Il a utilisé le langage des signes. Et quand Jésus pose un signe, ça parle quand même. Mais l'homme qui se tient devant lui n'est plus maintenant le sourd-muet que on lui a amené. C'est un homme qui entend, un homme qui parle. Et puisqu'il peut entendre, eh bien Jésus lui parle. Et il lui parle dans sa langue maternelle. Il lui dit « Ephphatha », c'est de l'araméen. Il lui demande de s'ouvrir, lui. Il ne dit pas qu'il faut s'ouvrir à ceci ou à cela. Il ne dit même pas qu'il faut s'ouvrir à Dieu ou de s'ouvrir aux autres. Il lui dit « Ouvre-toi ». Oui, que s'ouvre maintenant dans son existence à la vie, qu'il s'ouvre à toute la vie, dans tout ce qu'elle contient de beau, d'étonnant, d'éprouvant, de dur, de passionnant, de merveilleux, la vie. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer la vie. On n'aimera pas davantage son prochain si l'on n'aime pas sa propre vie, si l'on n'aime pas la vie. Alors, en ces premiers jours de rentrée, Jésus nous invite à une ouverture grand angle. Les photographes sauront ce que ça veut dire. De nos existences, à Dieu, aux autres, à nous-mêmes, à l'espérance, à l'entraide, à l'amitié, à la contestation, à l'action, à la confiance, à la prière, à tout ce que vous voulez, à tout ce que vous aimez. Soyons, vivons ouverts. Combattons aussi. Combattons ces paroles d'enfermement qui prétendent tenir le langage de la fidélité jusque dans l'Église ou de la vérité, mais qui en réalité représentent une menace pour l'Église, une menace d'enfermement. Soyons vigilants. Ouvrons. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à la présence de notre prochain en souffrance ou en demande. Et j'insiste là-dessus, ne nous empressons pas de dire à Dieu ce qu'il doit être pour nous ou ce que nous voulons être pour lui. Laissons un peu de temps. Ne nous empressons pas de lui dire comment nous voulons le servir et servir notre prochain, mais ouvrons-nous simplement et avec foi au mystère de son appel. C'est souvent en chemin faisant qu'on découvre l'appel de Dieu et non en restant assis à prier par mille paroles. Voilà comment un homme sourd et muet, trimballé par les autres comme un paquet, devient un homme libre. Quatre gestes et une parole. Et voilà une vie qui s'ouvre à tous les possibles. Cinq gestes, des gestes paroles, qui lui disent qu'il est aimé, qu'il peut aimer à son tour. Ephphatha, mon frère, ma sœur, Ephphatha, et belle rentrée à chacun. Amen.